Après ce coup dur,
Roger Chavanet.
Le lendemain, j'étais donc pas présent ce jour-là à ce combat. Le lendemain, donc, quand je suis remonté avec Farjas, nous avons tout de suite vu à Saint-Romain-de-Popé, nous attendions la voiture qui devait nous emmener au camp, c'était Barbier là, qui devait venir nous chercher avec la traction. Personne à la gare. Nous avons flairé quelque chose et en circulant dans les rues, nous avons entendu des bribes de conversation. Oui, ça a eu une bagarre terrible, etc. Enfin, j'ai dit, ça y est, ça, faut pas chercher, Barbier n'est pas là, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Alors nous sommes remontés quand même dans la direction du camp et nous sommes arrêtés à Villechenève. Et là, nous avons eu confirmation à la Croix de Signy par des amis qui nous disent partez vite. Hier, c'était plein d'un gendarme, ils vont certainement revenir. Alors, ils nous ont donné quand même quelques indications. Et puis, nous ne sommes quand même pas affolés. Nous sommes rendus au château de la Villette, là aussi où se trouvait un fermier, qui était fermier de ce château et qui gardait notre matériel. Et chez lui, nous avons retrouvé plusieurs camarades qui nous attendaient. Si bien que dans les jours qui ont suivi, nous nous sommes tous regroupés, enfin tous malheureusement, sauf les prisonniers et les morts, bien sûr, nous avons regroupé tout le monde, et nous avons fait un saut d'un seul coup, nous avons transporté notre camp à la limite de la Saône-et-Loire, c'est-à-dire nous étions aux limites de la Loire, nous avons franchi le Rhône en diagonale, et nous sommes retrouvés aux limites de Saône-et-Loire, au-dessus des Écharmeaux, sur le territoire de la commune de Propierre.
Là, nous avons.
Ben, nous étions pas tous motorisés, mais nous avions qu'une traction et qu'une camionnette. Mais nous faisions de la marche à pied et nous faisions des transports en voiture. Mais nous faisions de la marche à pied. Les gars partaient à pied. Moi-même, nous avons circulé à pied des kilomètres et des kilomètres. Là, nous avons fait des dizaines de kilomètres dans la journée. Nous avions l'habitude, nous avions l'entraînement. Nous avions des bonnes jambes. Et puis nous avions autre chose qui nous poussait. Hein. Et la voiture, elle servait surtout à transporter les bagages, enfin les vivres, le matériel. Il fallait que nous fassions notre cuisine. Nous avions des chaudrons, nous avions du matériel, comme une intendance en petit, bien sûr. Et puis nous avions des choses à transporter. On ne transportait pas la mitrailleuse sur notre dos, quand nous l'avions. On ne transportait pas les fusils mitrailleurs à notre épaule, hein, comme une troupe peut se permettre de le faire lorsqu'elle est à l'arrière du front. Là, il n'y avait pas d'arrière, il n'y avait pas d'avant. Nous étions de partout, dans plein combat. Alors les mitraillettes, bien sûr, premièrement, nous circulions de nuit. Ça, c'est un fait. La journée, on se tairait, sauf si nous avions des opérations à faire, et les gars du ravitaillement. Autrement, nous circulions de nuit. Quand nous avions des grosses randonnées à faire, nous les faisions de nuit. Très souvent, j'allais moi-même avec un camarade repérer les lieux, faire des points de repère, et ensuite nous partions de nuit. Mais nous avons fait cette étape, il y avait 70 km, nous l'avons fait là avec les voitures. Nous avons fait plusieurs voyages, nous avons transporté des gars en plusieurs fois. Ils attendaient, les voitures allaient et puis revenaient, ainsi de suite. Parce que là, c'était bien sûr un gros trajet à faire, on n'a pas fait à pied. Nous sommes retrouvés sur le territoire de la commune de Propierre, et toujours dans l'ambiance de faire quelque chose, surtout après ce coup dur qui nous était arrivé, nous sommes allés attaquer la voie ferrée au-dessus de la Clète, par des boulonnages. Là, il y a eu aussi une réussite formidable. Je crois qu'il y avait, à cet endroit, ça monte, je crois qu'il y a deux locaux qui poussaient. Il y a eu, je crois, deux locomotives endommagées et 16 ou 18 wagons également réduits en état de ferraille. Enfin, parce que moi, il y avait beaucoup de wagons, c'était des wagons de transport de marchandises, tout ça. Ensuite, le printemps venait, nous avons décidé d'abandonner les maisons isolées, qui, malgré quoi qu'elles nous offraient un asile, étaient quand même trop repérables, et de nous mettre directement dans les bois, c'est-à-dire nous placer directement dans les bois, sous des tentes. Nous avons réquisitionné de droite et de gauche des bâches. Nous avons construit des maisons, des cahutes en bois, et nous nous mettions en pleine forêt, sous la protection des arbres. C'est ainsi que nous sommes arrivés jusqu'au jour où j'ai été blessé, où j'ai dû abandonner la direction du camp. Alors, entre-temps, nous avons fait des opérations, bien sûr, nombreuses, et toujours pareil, destinées interrompre la circulation ferroviaire, surtout. Nous avions pensé, avec les camarades de l'état-major du camp, de faire une action de représailles contre les gendarmes de Panissière. Ah oui, parce que je dois dire, je n'ai pas terminé l'histoire de Montchal. C'est sur la dénonciation du chef de gendarmerie de Panissière, et surtout de son adjoint, le gendarme Bonnet, que nous avions été attaqués. C'est eux qui nous avaient signalé, c'est eux qui avaient demandé qu'une opération de police soit montée contre nous. Nous le savions, bien sûr. Nous avions décidé de faire une action de représailles et nous l'avions fixée au 1er mai. Avec d'autres actions, mais notamment, nous devions faire sauter un château d'eau à la gare de Tarare, nous devions faire pas mal de choses, le 1er mai. Et en même temps, attaquer la gendarmerie.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs, à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute.
Et alors, avec le chat, quand on faisait ces opérations, tous ces trucs.
Hubert Reverchon.
On était sur les roues avant de la traction de chaque côté, couché. Vous savez, à l'avant. Et une fois, on était là, aux Écharmeaux. Juste avant le col, au col des Écharmeaux. On était dans la forêt. En montant à droite, tout de suite avant le col des Écharmeaux. Hein? Eh bien, les Allemands nous recherchaient. Ils sont passés. Tout feu éteint, tout le machin sur la route, tout machin. Puis nous, on était juste à côté que nous.
Ils
nous
ont pas vu.
Non.
Oh, oui. Vous les aviez entendus arriver.
Ah oui, on les a vus. Oui. Voilà.
Le 31 mars, deux locomotives et 32 wagons sont détruits entre Chauffaille et Mussy-Soudun.
René Carrier.
Le 6 avril, une locomotive et 18 wagons sont détruits à Belmont-Belle-Roche, interrompant le trafic pendant 6 jours. À cette cadence, la ligne est pratiquement inutilisable et l'ennemi cherche toujours à localiser le camp. Pour contrecarrer notre action, les Allemands feront précéder les trains de 10 minutes par une machine houle-pied. Les maquisards laissent alors passer la machine houle-pied et réalisent leur déboulonnage ou plasticage en moins de 10 minutes. Le 6 avril est récupéré un important stock d'essence à Villefranche. Avec le beau temps, nous abandonnons les constructions en dur et édifions des huttes en plein bois. Et puis, progressivement, la population s'étant rendue compte que nous n'étions pas des aventuriers, mais des patriotes responsables, nous allions bénéficier de l'aide d'un certain nombre de commerçants et agriculteurs. Nous avons donc évoqué à différentes reprises ainsi que nous le devions, ce que nous avons appelé les grandes familles de la Résistance, de la vallée d'Azergues et des monts de Tarare. Ce que nous appelons les grandes familles de la Résistance, ce sont ces hommes et ces femmes, les épouses ayant dans ce cas des mérites tout à fait comparables à ceux de leurs époux, qui ont mis à notre disposition leur ferme ou leur établissement commercial et nous ont procuré le ravitaillement dont nous avions besoin. Nos camarades m'ont demandé avec raison d'évoquer le souvenir de ces patriotes, dont le rôle a été de premier plan et qui n'ont pas toujours fait l'objet de la reconnaissance qu'ils méritent. Concernant la vallée d'Azergues, nous avons le devoir d'évoquer M. et Mme Goutille, parents de 6 enfants. M. Goutille et son épouse acceptèrent que nous cantonnions en mai 1944 dans une partie de la ferme qu'ils exploitaient à Clavesol et dans laquelle ils vivaient avec toutes les conséquences qui pouvaient en résulter. Un détachement resta sur les lieux jusqu'à la libération. Lucie et Arsène Duvernay, parents de 3 fillettes, exploitaient l'hôtel du Gravier, si à Saint-Nizier d'Azergues. Ils mirent à notre disposition leur hangar et remise pour abriter notre matériel ainsi que de l'armement, et ils nous accueillirent de jour et surtout de nuit dans leur auberge avec la collaboration de leur fille aînée Renée. Ils hébergèrent et procurèrent de la nourriture à des personnes en difficulté ou désireuses de rejoindre nos formations. Paul Laffey gérait avec son épouse l'auberge du pont de Longeval à Saint-Just-d'Avray. Celle-ci était ouverte aux résistants avec tous les risques encourus. Paul était en outre un petit entrepreneur de travaux publics qui mit à notre disposition, lorsque notre parc automobile était trop réduit, ses véhicules qu'il conduisait pour effectuer des transports d'hommes, de matériel et d'armement, du point où ils étaient entreposés jusqu'au lieu de nos cantonnements. Paul Laffey allait prendre part au combat pour la libération de Lyon. Monsieur Duperron, épicier en gros, a assuré tout au long de cette période avec sa fille et son gendre, monsieur et madame Moreau, notre ravitaillement en produits d'épicerie et de légumes. Ajoutons que Georges Moreau, qui sillonnait les routes avec son camion de laitier, était informé de tous les bruits et rumeurs qui étaient colportés et qu'il était donc pour nous un précieux agent de renseignement. Il convient également de rappeler que nos amis Duperron et Moreau assurèrent avec leurs véhicules personnels des transports dont nous avions besoin. Louis Chaud, boulanger à Lettras, et Albert Laffey, boulanger à Chamblay, nous ont tout au long de cette période clandestine approvisionné en pain, que nous récupérions la nuit, avec tous les risques que cela comportait. Les époux Duperret exploitaient l'auberge isolée de la Croix de Signy, sise sur le territoire de la commune de Villechenève. Cette auberge était également ouverte aux maquisards, et les dépendances de cette ferme-auberge comportant de grands hangars serviront d'entrepôt pour notre matériel et notre armement jusqu'à la libération. Monsieur et Madame Michel sont les fermiers qui exploitaient le domaine du château de Villette, à Villechenève, dont les dépendances duquel nous entreposions du matériel ainsi que les véhicules de notre modeste parc automobile. Cette famille comptait 3 enfants, dont une fille. Ils se sont mis à notre service et ont effectué de nombreuses liaisons, ainsi que des transports d'armes et de matériel. Je veux enfin rappeler les mérites du prêtre de Montchal, lequel inquiet tout d'abord de l'implantation de notre camp sur le territoire de son village, a cherché le contact avec nous afin de savoir à qui il avait affaire. Il l'a donc appris et nous a exprimé sa sympathie et son soutien, si bien que lors du combat du 19 mars, où nous avons eu 5 morts et 5 prisonniers, il s'est opposé aux autorités vichistes qui voulaient jeter nos morts dans une fosse commune, en exigeant qu'ils soient inhumés décemment, par conséquent placés dans un cercueil, ce qui fut fait. En conclusion sur ce point, nous devons observer que si les résistants exposaient leur vie, les patriotes que je viens de citer exposaient celle de tous les membres de leur famille. Il en fallait en effet du courage pour mener de pair une activité professionnelle, en même temps qu'une activité clandestine. Nous saluons donc avec déférence ceux qui vivent encore et nous nous inclinons avec respect devant la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Nous constatons donc que notre maquis est apprécié par la majorité de la population, même si tous ne le montrent pas et restent silencieux.
Les Allemands étaient chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans souffrance. Hier encore nous étions trois, il ne reste plus que moi et je tourne en rond dans la prison des frontières. Le vent passe sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre.
J'étais agent de liaison.
Louis Rossi.
Toutes les semaines, je descendais à Lyon avec Chavanet. Je m'étais arrêté. J'ai été arrêté une fois avec Chavanet par deux gendarmes qui nous ont demandé les papiers. On avait une grenade dans la sacoche. Il y a un gendarme qui allait se baisser pour regarder. À ce moment, c'était critique. Est-ce qu'il fallait qu'on sorte les armes pour tirer? Il aurait trouvé ce qui arrivait. Non, il s'est relevé, et puis voilà, c'est terminé.
Il l'a vu, la grenade?
Non. Et après, Chavanet, Guérin, à la Libération, bien plus tard, quand il faisait son livre, il est tombé sur un de ces deux gendarmes. Et ils ont parlé, et le gendarme qui lui a dit, le collègue qui était avec moi, il n'était pas bien pour la résistance. Vous voyez? Comme ça, c'est malheureux à le dire, il y avait des gendarmes avec nous. Nous, on a eu le gendarme de Lamur qui était avec nous. Et la population, alors plus en plus la population, d'ailleurs après on a créé des milices, parce que quand on a été après, on a, dans les bois aux Écharmeaux, on a dit on ne peut pas rester là, nous sommes allés à Clavézol. Et c'est le père Bouty, sa ferme, qui nous a mis à sa disposition. Et là, il y a eu les parachutages. Alors, on a formé les sections qui étaient dans un bois.
Là, on était en avril-mai 44.
Mai. C'est mai, là. On était à plusieurs sections. On était une section qui était dans les bois, une autre section dans les autres. Et nous, on était à la ferme Goupy. C'était l'état-major.
Et votre travail d'agent de liaison, comme vous dites, moi, c'était quoi en fait? Vous veniez faire quoi?
Moi, agent de liaison, j'allais pour rejoindre, donner des ordres aux autres sections des maquis. Il y avait Châtelet qui était à la croix de col de la Casse Froide. Moi, j'allais rejoindre les maquis pour leur donner les instructions, ce qui nous a d'après l'état-major.
Oui. C'était pas tellement à Lyon que vous veniez, vous repartiez sur...
À Lyon, je venais en fin de semaine, mais dans la semaine, tous les jours, avec une pétrolette, j'avais une pétrolette, j'étais jusqu'à Cour. Et quand il a fallu aller chercher des officiers, vous savez, à l'appel de Gaulle, je suis allé même jusqu'à Trévoux. Mais moi, je faisais le...
Là, vous aviez un papier, non? Vous aviez des consignes verbales à transmettre.
Verbal. J'enjeignais tous les campements des maquis.
Et à Lyon, c'était l'état-major que vous rencontriez, non?
J'allais pour avoir des ordres chez les Blancs.
Ici, quelques mots pour présenter et rendre hommage à la famille Blanc. Marie-Justine et Joseph Blanc tenaient boulangerie au 16 rue Chardonnay à Vaux-en-Velin. Dès le début de la résistance, ils ont fait de leur lieu de vie un centre de rendez-vous. On y hébergeait des combattants traqués, on y dissimulait les armes et le matériel. Le 1er mars 1943, Joseph Blanc est arrêté. Il réussira à s'évader durant son transfert à Compiègne. Leurs trois enfants se sont impliqués eux aussi dans la résistance. Simone, 12 ans à l'époque, Pierre, 23 ans, dans les groupes FTPF, et Olga, 21 ans, qui était aussi la fiancée d'Émile Bertrand. Émile, Pierre et Olga étaient, en juillet 1943, tous trois membres du détachement Guy Moquet.
Olga Blanc, un contact, voilà, et là on avait des transmissions.
Avec de la sécurité quand même, vous ne saviez jamais si vous alliez le trouver.
Vous savez, chez ma sœur, à côté il y avait une dame qui, son mari était prisonnier, il y avait tout le matériel. Et mon frère d'ailleurs qui était, et puis le soir, mon beau-frère, c'est souvent que la police est venue l'arrêter. Et un jour, ils se sont trompés, ils ont frappé à la porte à côté où il y a mon frère. Heureusement que mon beau-frère a entendu, il est sorti pour chercher Fortunati, c'est moi. Parce qu'ils avaient ouvert de l'autre côté où il y a mon frère, il y avait tout.
Trouvé tout.
Voilà.
C'est presque étonnant que vous n'ayez jamais. Il devait bien se méfier et penser que les maquis descendaient à Lyon.
Ah, bah oui, mais moi, je vous dis, j'ai eu de la chance.
En plus, vous preniez le train.
On prenait le train. On a eu une opération, et on a eu la police qui nous a suivis. On a rejoint à Gorge-de-Loup pour prendre le train. C'était plusieurs, il y avait 40 d'ailleurs.
Et c'était toujours les deux mêmes qui descendaient, vous et
Chavanet. Il y a Chavanet et Duclos, et moi. J'en ai tout le temps avec Chavanet, moi. Et Duclos, avec la camionnette, est tout le temps avec Barbier, le chat. Mais moi, souvent, j'étais avec eux tous les trois. D'accord.
Et politiquement, au fil de tout ça, vous avez une conscience politique qui vous est venue ou...
Non, mais remarquez, je veux dire, il y avait... Chavanet, à ce moment, c'était un peu politique.
Oui, mais moi, la plupart étaient quand même très communistes.
Dans notre camp, il y avait des communistes, il y avait des catholiques, il y avait des juifs, Chaudier, qui a explosé sur un obispe, un juif, il y avait toutes sortes. Voilà, c'était pour la libération de la France. On a eu des gars qui sont venus de l'Ain nous rejoindre, d'ailleurs qui avaient fait le défilé du 11 novembre à Yonnax, et qui nous ont rejoints, c'était 5. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient se battre, et là-bas, ils ne bougeaient pas.
Donc vous ne vous sentiez pas vraiment, comme on dit, noyauté par les communistes? C'était un combat que tout le monde menait.
C'était un combat, oui. Mais nos dirigeants à l'époque, Chavanet était communiste à l'époque.
Oui,
hein.
Oui. Oui, beaucoup d'autres.
Mais moi, je sais que... Non. Moi, je voulais me battre contre les Allemands.
Il faisait un peu dans les temps libres des cours, des exposés. Ah
oui, on parlait. Non, mais ce que c'est ça, oui. Il y avait tout. Puis des fois, le soir, quand il faisait mauvais tour, on avait un copain de Darieux qui chantait, il a une sacrée belle voix. On chantait, vous savez, les veillées. Hein.
Qu'est-ce qu'on chantait, vous vous souvenez?
Hein?
Qu'est-ce qu'il chantait?
Il chantait la. Mississippi.
Ah oui. C'était une voix de
il est... Ah bah ouais, mais c'est un bariton, hein. C'est un sacré haut. Hein.
an old man called the Mississippi. That's the old man I don't like to be. What does he care if the world's got troubles? What does he care if the land ain't free? But don't say nothing. He just keeps rolling. He keeps on rolling along. He don't plant taters. He don't plant cotton. And them that plants them is soon forgotten. But old man River, he just keeps rolling along. You and me, we sweat and strain, body all aching and racked with pain. Tote that barge, lift that bale, get a little drunk, and you land in jail. But I keeps laughing instead of crying. I must keep fighting until I'm dying. And old man River, he just keeps rolling along.
Le 22 avril, le camp bivouac dans les bois de Saint-Bonnet-les-Bruyères. Une patrouille de trois hommes est attaquée sur la route de Matour par des feltes gendarmes. La fusillade est entendue du camp. Guérin, Roger Chavanet, se porte avec un groupe au secours de la patrouille, mais il sera grièvement blessé. La perte est lourde et le moral s'en trouve atteint. Là encore, le remède réside dans l'intensification de l'action.
Donc nous étions sur le territoire de la commune de Saint-Bonnet-les-Bruyères, au milieu des bois. Et j'avais disposé une patrouille dans un petit hameau qui s'appelle le Villard, et qui transite sur une petite route qui transitait de Saint-Bonnet-les-Bruyères à Aigueperz.
Roger Chavanet.
Rien ne devait se passer normalement. La patrouille était camouflée, tout au moins devait l'être. Mais malheureusement, il s'est passé quelque chose, en ce sens que un gars de la patrouille est allé discuter quelques minutes avec un paysan qui était en train de piocher son jardin. Et c'est à ce moment précis qu'une voiture de gendarme allemand est passée. Qu'allait-il faire en cet endroit? On a dit qu'il venait pour nous, je ne le crois pas personnellement, je crois plutôt que c'est le hasard. Mais quand ils ont aperçu un gars avec une mitraillette au côté, bien sûr, ils ne sont pas fous. Ils sont descendus, je crois qu'ils devaient être dans la voiture. C'était une très grande voiture, une très grosse voiture, qu'ils avaient louée à un garage des Brotteaux, et qui était conduite par un chauffeur du garage en question. Il y avait des strapontins qui s'abaissaient dans cette voiture, on tenait facilement 6 ou 7. Je ne sais pas combien ils étaient, mais il y avait au moins 5 à 6 gendarmes dedans, enfin 5 ou 6 allemands. Donc certains avaient la plaque. Le camarade, bien sûr, qui se trouvait là, a été séparé de son groupe du fait qu'il y avait la route. Le groupe se trouvait sur la gauche, lui se trouvait en train de discuter sur la droite. Quand il a vu arriver cette voiture, il y avait le soleil dans les yeux, il n'a pas pu bien réaliser exactement ce que c'était. Il était 11h du matin, très exactement. Il a donc été séparé. Les gendarmes l'ayant aperçu, n'avaient pas aperçu les autres. Mais ils l'ont aperçu lui. Ils sont descendus, ils se sont mis à sa recherche. Alors lui, il est rentré dans une ferme et il est allé se planquer en haut d'une grange, à laquelle on accédait par une échelle. Il avait laissé l'échelle, bien sûr. Les Allemands font irruption dans la cour de la ferme, ont commencé par rassembler les paysans, comme ils faisaient d'habitude, les paysans terrorisés, bien sûr, devaient arriver des uniformes allemands, vous n'avez peut-être pas vu encore. Et ils ont vu l'échelle, ils ont grimpé. Le camarade qui se trouvait en haut, bien sûr, n'avait plus aucun espoir. Il était cuit. Néanmoins, quand il a vu arriver la casquette, il a tiré une rafale de mitraillette. Mais l'autre, qui savait faire la guerre aussi, il avait déjà rabaissé sa tête. Bien que la rafale de mitraillette est passée au-dessus. À ce moment-là, j'étais à 500 mètres de là, à ce que nous pouvions appeler le PC, où nous nous réunissions, quoi, et dans une maison abandonnée qui nous servait de relais entre nos cabanes dans les bois et le village et le hameau. J'ai entendu ces coups de feu. Je pensais qu'il y avait quelque chose, bien sûr. Avec tout ce qui se trouvait autour de moi, nous avons bondi sur les premières armes que nous avions sous la main. En l'occurrence, je me rappelle, j'avais ramassé un fusil Lebel de l'armée française qui traînait là, qui était contre un mur. Et nous voilà descendus 4 à 4. En arrivant là, je vois le groupe qui était avec son chef de groupe, la remontée, et les Allemands sont là. Je dis, alors qu'est-ce que vous faites avec votre fusil mitrailleur? S'ils sont là, il ne s'agit pas de passer par là-bas, c'est là. Alors nous sommes redescendus tous. Un autre de mes camarades a pris Farjas, a pris le fusil mitrailleur. Et en arrivant à l'intersection de la petite route, nous avons aperçu les Allemands qui seraient dans la cour de la ferme. Un des miens a lancé une grenade, mais cette grenade a explosé en deçà d'un mur et les Allemands se trouvaient de l'autre côté. Mais bien sûr, lorsqu'ils ont vu qu'ils avaient affaire à des gars qui avaient des armes, ils n'ont pas demandé leur reste et ils ont fait un mouvement de repli. J'ai pensé qu'ils allaient sortir, bien sûr, par un chemin creux qui longeait la ferme sur un de ses côtés, et je me trompais pas. Seulement lorsque je suis arrivé à ce chemin creux, le temps que le fusil mitrailleur se mette en position, il y avait déjà un Allemand qui avait sauté le chemin et qui se trouvait de l'autre côté dans les prairies. Celui-là, je l'avais pas vu. J'ai vu l'autre bouger. Le fusil mitrailleur s'était mis à tirer et j'ai vu bouger dans la haie une forme, quoi, enfin un Allemand qui s'apprêtait également à franchir. Afin de pouvoir l'ajuster, j'ai été obligé de me dégager du mur. Je me suis donc trouvé au milieu du chemin. Je vise, et c'est à ce moment-là que j'ai été moi-même touché par une balle qui m'a traversé de part en part, qui était tirée par un autre Allemand qui avait déjà fait son saut, qui avait déjà passé par de l'autre côté, et qui, bien sûr, protégeait le repli de ses camarades, comme nous aurions fait exactement pareil. Alors j'ai été blessé, bien sûr, comme foudroyé sur le moment. Une balle qui traverse de part en part, ça ne fait pas du bien sûr. Et j'étais paralysé complètement, mes jambes ne marchaient plus. Bon, alors les camarades au fusil mitrailleur ont continué de tirer, mais le voir tomber, ça a acheté un froid. Et les Allemands ont profité de ça pour. Alors, des gars sont venus, ils m'ont tiré par les épaules pour me mettre à l'abri des balles, parce qu'ils continuaient de tirer, bien sûr, c'était normal, ils continuaient de tirer. Alors, ils m'ont tiré à l'abri du mur. Pendant que le fusil mitrailleur continuait, bien sûr, à leur tirer dessus, mais sans grand espoir, parce qu'ils étaient bien sûr répartis dans les fourrés, et ils ont réussi à partir tous, sauf le chauffeur, qui lui était un Français, un employé du garage, et que les gars voulaient tuer. Bien sûr, il conduisait les Allemands, hein, c'est normal. Alors, je suis intervenu pour lui, j'ai dit, attendez, avant de le tuer, faites bien attention, attendez une seconde, on va d'abord interroger, j'avais pas perdu connaissance, malgré ma blessure. C'était comme ça, j'ai aucun mérite spécial, j'avais pas perdu connaissance. Je souffrais, mais c'était pas une douleur atroce malgré tout, c'était une paralysie, je ne pouvais plus faire marcher mes jambes, c'était terminé. Alors les Allemands donc sont partis à travers la campagne, et ils se sont, nous avons appris par la suite, ils se sont réfugiés à la gendarmerie de Matour, en disant, terroristes, il nous faut une voiture pour les Andalions. Les paysans affolés, bien sûr, ont dit, ça y est, ils vont revenir, ils vont tout brûler nos fermes, ils ont lâché les bêtes dans les champs, et puis ils sont partis. Et bien sûr, moi-même, j'ai été chargé dans la voiture avec le chauffeur en question, là, le gars du garage. Il nous a expliqué, bien sûr, le gars, il tremblait comme une feuille. Il dit, moi, j'ai reçu l'ordre de le conduire. Vous pouvez téléphoner à tel endroit, vous pouvez vous renseigner à tel endroit, garage un tel, ou Broto, ça existait en effet. Nous avons du reste conservé la voiture que nous avons rendue qui a été rendue après la libération. Donc ça correspondait bien. C'était une voiture de location. Que venait faire ce type-là dans le coin? On ne le saura certainement jamais. Toujours est-il qu'ils ne sont pas revenus. Il n'y a eu aucune représailles, ils ne sont pas revenus. On se demande ce qu'ils étaient venus faire dans ce coin. Étaient-ils venus pour faire du marché noir? Étaient-ils venus pour des motifs autres? Les gendarmes de Saint-Monnet-des-Bruyères nous ont affirmé qu'ils n'étaient pas au courant de rien, après la libération, bien sûr. Ceux de Matour aussi. Donc on ne peut pas savoir ce qu'ils étaient. Toujours est-il qu'ils étaient suspendus et que malheureusement, ce jour-là, j'ai été blessé.
Nous, on y était, là-bas.
Hubert Reverchamp.
Oui, parce que vous étiez dans le groupe, vous étiez encore dans le groupe René Carrier.
Oui. Et puis on avait monté pour coucher des cabanes avec des branches et tout le machin qu'on couchait là. Et il y avait quelques fermes qui étaient dans le coin et tout. Et puis alors donc, puis on a attendu des coups de feu, des machins comme ça.
Et vous étiez en arrière à ce moment-là, et vous faites partie de ceux qui sont venus à l'aide des gens attaqués.
Oui. Ben, c'était les Allemands, c'était plutôt de la gendarmerie allemande, un truc comme ça.
Feldgendarmerie.
Voilà, c'était ça. C'est ces gens-là. Quand le dire, c'était la destinée, quoi.
Alors, blessé, j'ai été transporté alors à Saint-Just-d'Avray.
Roger Chavanet.
Il y a quand même entre Saint-Bonnet-des-Bruyères et Saint-Just-d'Avray une soixantaine de kilomètres, en plein jour, bien sûr. Et je suis arrivé à notre infirmerie, chez Madame Vincent, qui était la future belle-mère, on peut dire, de Oert, celui dont tout à l'heure je vous parlais, là, qui a eu les deux jambes coupées, parce qu'elle avait une petite fille, et ils avaient fait connaissance comme ça, c'est les amours du maquis. Ils avaient fait connaissance comme ça, ils se sont mariés après la libération. Elle s'est mariée malgré qu'il ait eu les deux jambes coupées. Et j'ai donc été transporté chez cette brave femme. Nous avons fait venir un docteur qui existe toujours, du reste, qui est toujours en vie, avec lequel je correspond tous les fins d'année, le docteur Francoz de Saint-Just-d'Avray, que nous avions connu en novembre 1943, alors que c'était plutôt un fervent pétiniste, et qui, sidéré par notre tenue, par nos conversations, avait complètement changé ensuite, on peut le dire, son opinion sur nous. Au début, nous avons été presque obligés de le faire venir, j'avais été obligé même de le faire venir de force, pour soigner des gars qui s'étaient blessés accidentellement, en nettoyant une arme. Et il était venu à regret, on peut le dire. Et de nous voir, de discuter avec nous, ça l'avait complètement transformé. Et lorsqu'il est parti, il nous a dit, bien, vous les gars, vous pouvez avoir confiance en moi, et si vous avez quelque chose qui vous arrive, malade ou blessé, vous pouvez me faire signe, je serai toujours avec vous. Il n'a jamais manqué sa parole. Et le jour où j'étais donc blessé ainsi, on est allé le chercher. Bien sûr, il m'a examiné, il m'a dit, je vais être franc, hein. Tu es touché et c'est pour la vie. Ça peut revenir un peu, mais je ne veux pas te faire beaucoup d'illusions. Alors, tu ne peux pas rester là. Je vais te faire partir. Je connais à Lyon une clinique où j'ai un de mes amis qui est chirurgien, le docteur Arnuf, le professeur Arnuf. Professeur Arnuf qui existe toujours, place des Célestins, en face de l'immeuble du parti. Il est là, il existe toujours. Je le vois toujours. Le docteur Francoz m'a donc chargé dans sa voiture et m'a emmené. Nous avons été arrêtés par un barrage de miliciens au terreau. Et il leur a dit que c'était un jour, on avait convenu que si on avait quelque chose, c'était un accident du travail. Ils n'ont pas cherché à savoir davantage, ils nous ont laissé passer. Et à 8h du soir, alors j'avais été blessé à 11h du matin, à 8h du soir, j'ai été seulement admis en clinique, à la clinique Saint-Maurice, cours Albert Thomas, où j'ai été soigné pendant 15 jours par les sœurs et par ce professeur. Ensuite, ma foi, ensuite, ça a été terminé pour moi, les combats. Je suis revenu chez moi, à Saint-Rambert, et comme malgré tout, à ce moment-là, il y avait des rafles, des perquisitions de jour et de nuit, les camarades ont décidé de me faire partir, et j'ai été emmené en voiture par eux, à Dieppe, dans une petite maison qu'ils avaient louée, spécialement pour moi, et où j'ai vécu avec ma femme jusqu'à la libération, avec ma femme et ma fille, parce que j'avais une fille qui avait 1 an. Et j'ai vécu avec ma femme et ma fille, paralysée complètement, totalement, dans l'incapacité absolue de me mouvoir, jusqu'à la libération.
Oh! mais nous n'avons pas perdu la bataille. Nous nous sommes repliés à nouveau dans la vallée d'Azergues et nous sommes montés dans le nord du département du Rhône.
Marcel Schadbeck.
Aigueperse, Propierre, Savonnet-les-Bruyères. Et c'est là où Chavanet a été blessé par les attaquants. J'ai dû prendre le commandement dans une situation délicate parce que après Montchal, nous avions eu d'autres pertes et la perte du chef aussi. Les Grecs commençaient à dire mais on va pas tenir. Et puis c'est peut-être le propre des démocrates, mais on voulait pas cacher à nos hommes ce qui se passait. Alors on avait la radio et il y avait le fameux Philippe Henriot, mais il arrivait à saper le moral de nos gars. Il était costaud, cet homme-là.
Le roi des salauds ressemble à Hitler, Hitler à Hitler et Hitler à Henriot. Ce qui fait qu'en fin de compte, le roi des salauds ressemble à Henriot comme deux gouttes d'eau.
Et j'ai cru que le camp, il allait partir en brioche. Alors, avec Farjas, on a dit, il ne reste qu'une ressource. C'est nuit et jour, des actions, des actions, des actions. Ça a sauvé le camp.
Donc là, on est en mai 44, et à ce moment-là, vous... Enfin, avec le débarquement, vous pensez que vous tenez le bon bout, alors?
Du début, on y pensait.
Du début. Vous n'avez jamais pensé que vous perdriez, que...
Non, jamais.
Louis Rossi.
Pourtant, c'était pas évident.
Ah, mais c'est pas évident, d'accord. D'ailleurs, nous, les copains qui sont morts, ils sont morts. Hein. Mm-hmm. Nous, on a eu de la chance qu'on n'ait jamais resté à la même place.
Oui.
Les Allemands, ils n'ont jamais pu savoir où on était. Parce qu'on avait un groupe là, c'était le truc du mercure. Vous savez, quand il tombe, ça fait des boules.
Mm-hmm.
On était une section là, dans les bois. Dans la vallée d'Azergues, il y a ça, les Scacours et tout. Ils n'ont jamais pu nous localiser comme ils ont fait au Vercors, vous voyez. On a eu des accrochages avec un terrain blindé du côté du pont Simpson, à Villefranche. Mais ils n'ont jamais pu nous localiser. Ils sont venus avec les avions pour nous bombarder.
Ils sont venus.
Ah oui, oui. D'ailleurs, il y a eu des civils.
Et ils ont bombardé au bon endroit ou...
Non, ils ont bombardé. À peu près, vous savez, mais c'est malheureux parce que la population qui a dérouillé, là.
Ah oui.
Il y avait des gens qui étaient de Lyon, qui étaient là-bas pour se cacher, des jeunes, ils ont été tués. Il y a eu 5 morts.
Ah oui. C'était à quelle époque, ça, à la fin
hein? Ben ça, c'était, c'était au mois d'août.
44. Juste avant la libération.
Oui, voilà, avant la libération. Je vous dis bien, ils n'ont jamais pu savoir combien on était. Nous, on a libéré la vallée d'Azergues à partir du mois de juin.
À partir de juin, vous considérez que...
Ben moi, je circulais partout.
Ah oui.
Jusqu'au Pontarret. Au Pontarret, on a eu des accrochages. On avait la brigade de gendarmerie du Baudouin qu'il fallait un peu s'en méfier à l'époque. Quand on les a désarmés le 18 juin, à l'appel de Gaulle, le 8 juin.
Et après, vous avez organisé un peu la région
La région, avec la population, ils sont occupés du ravitaillement et tout. Ils ont monté des comités, des gens du pays qui connaissaient comme les bouchers et tout, pour le ravitaillement de la population.
Et vous pensiez à la libération de Lyon à ce moment-là et à votre
participation? Ah oui, ben oui, il en était question déjà à l'époque, oui. Il y avait toutes les milices, à Grand-Ry, Lamure et tout. Hein.
Mais je crois qu'il faut dire, au point de vue stratégique, ce qui a été une de vos forces, c'est de ne pas tous vous regrouper, mais d'avoir des petites unités mobiles disparates sur lesquelles les Allemands et les Gestapo n'ont jamais su exactement l'état des forces.
Ça a été la grosse divergence avec les gaullistes.
Marcel Schadbeck.
Le mouvement gaulliste, lui, constituait de gros maquis. On a vu à quoi ça aboutit, les Glières, le Vercors, le Montboucher, parce que les Allemands concentraient à ce moment-là des forces suffisantes pour détruire. Et puis, l'orientation consistant à fabriquer, à mettre, à implanter des gros maquis dans des montagnes, abrités par des cols, étaient faciles à neutraliser, mais ils étaient aussi faciles pour les Allemands à neutraliser à leur tour. Et après, il n'y avait plus qu'à envoyer les planeurs par-dessus et c'était bon. Tandis que dans la Zerg, bien pour neutraliser la Zerg où on pouvait passer partout pour s'enfuir, il aurait fallu un monde considérable qu'ils n'avaient plus à ce moment-là. Il suffisait d'un homme, d'une femme, de quelqu'un qui veuille se battre. Et j'ai par exemple une chose dont je ne parle pas dans le livre parce que je n'ai pas réussi à recueillir toutes les informations et les souvenirs nécessaires, mais nous avions un gars qui s'appelait, que l'on appelait Pierrot Laboule parce qu'il avait un kyste énorme à la mâchoire et on l'appelait Pierrot Laboule. Or, dans la région de Morancé, Anse, les Chères, et ils nous avaient organisé plusieurs groupes de combat qui étaient armés par nous, et qui n'agissaient pas, mais qui attendaient et qui intervenaient chaque fois que nous nous trouvions en difficulté dans la Zerg.
Pendant 15 jours, l'activité ne connaîtra pas d'arrêt.
René Carrier.
Des milliers de couvertures destinées aux Allemands sont saisies à court. 5000 litres d'eau de vie destinés à être transformés en carburant sont détruits à Quincier. 1500 tonnes de ravitaillement destinées à l'ennemi sont détruites. La ligne de chemin de fer est sabotée en plusieurs points. Toutes les installations de la gare de Lausanne sont plastiquées. 1500 Allemands, exaspérés par notre action, tentent en vain de nous localiser. Ils attaquent dans la région de Belmont un camp des corps francs installé depuis quelques jours et mitraillent les maquisards sous leurs tentes. À cette époque, et je cite ce cas pour montrer à quel problème particulier nous pouvions être confrontés, notre camp va devoir réaliser une opération de police sur la plainte de cultivateurs qui étaient pillés par de faux maquisards. Notre maquis neutralise, après un échange de coups de feu, une bande de malfaiteurs qu'il livre à la gendarmerie de Tarare, amis de la résistance. Les objets volés sont restitués à leurs propriétaires.
Nous sommes arrivés à Saint-Just-d'Avray, la région de la Joana, qui était pour nous une terre de prédilection, et les paysans avaient été victimes de gens armés qui les avaient dépouillés. Eh bien, ils sont adressés au maquis, bien sûr. Ils ont fait la différence tout de suite, que ça n'était pas notre attitude, donc ils sont adressés au maquis. Et avec les informations qu'on avait, on a su qu'ils étaient planqués dans une vieille ferme. On a été les attaquer. Bien sûr, au premier coup de feu, ils sont rendus. Et nous les avons livrés à la gendarmerie de Tarare.
Je suis rentré le 10 octobre 43 au maquis, et je suis reparti septembre, presque un mois après, quoi.
Hubert Reverchon.
Vous trouviez le temps long ou que ça passait vite ou dans cette période du maquis?
Vous savez, on n'avait pas bien le temps de trouver le temps long parce qu'il fallait se méfier. Il fallait se méfier de tout, faire attention et tout. Oh là là. Je me rappelle. Je sais pas où on était. Ah, c'était dans la vallée de la Valossière. Mmh. Oui. Hein. Eh bien, on était cantonné là-bas. Et puis, une nuit qu'on revenait d'opération et tout, qu'est-ce qu'on entend? Des avions anglais et tout. Et qu'est-ce qu'on voit? Comme on avait les feux de notre bagnole et tout, qui était un peu allumé et tout pour passer nos jeux. Je pense qu'ils ont cru, les pilotes. Ils ont parachuté.
Alors que vous attendiez rien.
Oh non. Alors on a récupéré tout.
L'armement?
Oui.
Quand tombent les corolles blanches du ciel de nuit ou plus d'azur, on se sent grisé d'espérance en pensant au combat futur. Et qu'on t'énergise dans l'herbe ou pende dans quelques taillis, les équipes mettent en gerbe les armes qui en ont jailli. Les colis d'Angleterre, comme tous nous les attendons, pour pouvoir poursuivre la guerre et chasser l'occupant teuton. Quand viendra le parachutage, pensons à ceux qui nous envoient d'Angleterre ces précieux bagages pour nous aider dans nos combats. Vous qui au loin menez la lutte, souvent aussi, pensez à ceux qui souffrent, luttent, qui combattent dans le maquis. Les colis d'Angleterre, comme tous nous les attendons, pour pouvoir poursuivre la guerre et chasser l'occupant teuton. Qu'en naîtront les corolles blanches, s'épanouiront sous le ciel clair des fleurs au parfum de vengeance, armes jaillies des conteneurs. On sera dans chaque cahute, au fond du plus humble chalet, que le maquis poursuit la lutte et combat pour la liberté. Les colis d'Angleterre, comme tous nous les attendons, pour pouvoir poursuivre la guerre et chasser l'occupant teuton.
À compter du mois de mai, le camp réintègre la vallée et s'installe sur le territoire de la commune de Clavaisolles.
René Carrier.
Les choses ont beaucoup évolué. Le camp est solidement implanté dans le secteur où il est entouré de la part de la population d'une chaude sympathie. Il dispose d'un réseau de correspondants et de fournisseurs parfaitement organisé. Il crée dans les principaux villages des groupes de résistance sédentaire. Ses effectifs augmentent. Et après avoir créé la première compagnie de partisans, il forme le bataillon 14 juillet, qui sera une réalité. C'est-à-dire qu'il atteindra ses effectifs au mois de juillet. Nous ne sommes plus dans la phase de la clandestinité où la résistance doit être organisée en petites unités, mais nous atteignons la phase de l'insurrection nationale. C'est à la fin du mois de mai que s'implante dans le sud de la vallée, sous le contrôle et avec l'aide des forces en place, un maquis placé sous le contrôle des rescapés de l'état-major de la zone sud, qui a été démantelé à la suite d'une dénonciation, perdant des dirigeants éminents comme Georges Livet, Francisque Jomard, Charles Vauban et Marcel Clouet, qui ont été arrêtés, torturés et massacrés. Les rescapés ont donc reçu l'ordre de créer un nouveau maquis dans la Zergue, étant précisé que celui-ci serait aidé et soutenu par les forces en place, solidement structurées, étroitement liées à la population, disposant d'un réseau de fournisseurs, d'un réseau de renseignements. Et nos camarades ont rapidement créé à leur tour une compagnie, puis un second bataillon, le bataillon 89. Nos effectifs seront naturellement alimentés par les volontaires de la vallée et les jeunes échappant au STO. C'est ainsi que dès le début du mois de juin, la vallée d'Azergue est libre. L'ennemi ne pénètre plus dans celle-ci. Le camp des Stieux est devenu une force structurée et active. Il a constitué trois compagnies et formé un bataillon, le bataillon 14 juillet. Le chef de cette formation est Marcel Schadbeck. Le responsable des opérations militaires est Georges Heurth. La vallée étant libre, il incombe à la résistance d'administrer la population et par conséquent d'assurer son ravitaillement. D'où la création de ce qu'il a été convenu d'appeler le congrès de Chamblay, où se sont trouvés réunis avec les responsables de la résistance les représentants des autorités locales dont l'attitude n'avait pas été déshonorante. Ce congrès a uniquement pour mission de fixer le prix des denrées alimentaires qui eurent cours jusqu'à la libération et pour certains plus tard. Pour répondre à la préoccupation de certains de nos amis, Je dirais qu'aucune autre formation que la nôtre ne s'est organisée dans la vallée. Il existait deux groupes de l'armée secrète à Lamure et à Grandry, avec lesquels nous avons entretenu les meilleurs rapports, et qui se sont fondus parmi les groupes de résistance sédentaire. Ce sont donc les bataillons 14 juillet à 89, qui, sous le commandement du colonel Le Petit, André Tourné, qui allait être grièvement blessé, puis de son successeur Raymond Périnetti, le colonel Brun, allait descendre sur Lyon pour prendre part à sa libération. Mais l'enthousiasme populaire était alors tel que de nombreux jeunes souhaitaient rejoindre nos rangs, si bien que nos représentants ont été en mesure de constituer le 1er régiment FFU du Rhône. Le parcours du camp d'Estieux n'est donc pas sans intérêt. Le petit maquis de 40 hommes grandit, libère la vallée d'Azergue et crée à la libération un régiment FFU.
Oui, vous étiez quand même un peu au courant de ce qui se passait.
Oui, et puis comme on descendait à Lyon, on avait des nouvelles.
Louis Rossi.
Moi, j'ai deux copains qui nous ont rejoints pour maquis, Adolphe Blanc et Merci. Ils ont été à Chambéry, ils ont descendu un chef de la Gestapo. Et après l'arme, ils l'ont donné à une dame qui a récupéré l'arme. Et, parce que tout cerné, hein, et ils ont réussi à venir sur Lyon.
Ils sont aussitôt partis au Lyon.
Ils étaient de Lyon.
Et vous saviez quelque chose de la déportation pendant cette période des maquis, vous arriviez?
Non, on savait qu'ils avaient été déportés. Passait, on ne savait rien, non. Rien.
Ni pour les Juifs.
Non, pour rien. Nous, on avait un camarade qui était juif, là, Chaudier, qui a sauté sur un mortier. Il expérimentait quand on a eu le parachutage. Et heureusement qu'il a dit à tous les copains se reculer. C'est plus lui qui a eu la décharge.
C'est un accident, ça.
Un accident, oui.
Par contre, qu'est-ce que faisaient les maquis dans le Limousin ou dans le sud de la
France? Non. On savait par des échos que ce qui était arrivé à tel et tel endroit, voilà.
Les FTP Moy, Libération et Carmagnol, par exemple, vous saviez rien à ce moment-là?
Pas tellement, non. La libération, il y avait eu Saroglia qui était au truc à Pusignan, là, des trucs comme ça, quoi. Mmh. Là, c'est après.
Ça devait être quand même difficile de se sentir un peu isolé à la fois, bon, combattant,
oui.
Mais pas savoir les forces qu'on représentait au niveau national.
Mmh. Oui, d'accord. Ah, bah oui. Mmh.
Et avec le recul, vous regrettez des choses? Vous pensez qu'il y a des choses que vous auriez pu faire que vous n'avez pas fait ou...
Ben, on aurait eu plus d'armes, on aurait pu faire plus de choses.
Surtout au début.
Bon, au début, il n'y avait quoi, il n'y avait rien. On avait un revolver pour 5, un fusil. On a eu plus d'armes quand il y a eu la dissolution du convent des Mières.
Vous auriez fait quoi avec ces armes? Parce que vous me disiez que vous faisiez essentiellement du
débrouillard. Ben oui, mais si on aurait eu plus d'armes, on aurait pu faire d'autres actions, je veux dire.
Ah, oui.
Vous voyez? On aurait pu venir des fois sur Lyon pour attaquer, puis s'en plier.
Ah oui.
Et nous, notre tactique, normalement, c'était pour faire sauter les trains qui rejoignaient Chauffaille, tout ça. Mm-hmm. Et les trains passaient tous par là.